Vous êtes sur RTL.
Oui.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 5 février, testés, alertés, protégés, nous y sommes toujours. Les autorités surveillent de près les variants du virus, en particulier la version sud-africaine. Elle vaut à l'île de Mayotte un reconfinement pour au moins 3 semaines. La culture bouillonne et s'impatiente. Les musées veulent rouvrir. Nous irons à Strasbourg, où la mairie a travaillé sur un nouveau protocole sanitaire. L'usine Renault de Sandouville à l'arrêt en début de semaine prochaine à cause du Covid. Le constructeur fait face à une pénurie de composants électroniques. Dans RTL Midi aussi, une ligne vétuste et surchargée. Pas de RERB ce matin sur la portion nord de Paris. Rupture de caténaire. Cette ligne transporte 1 million de passagers chaque jour. Encore des vacances en mode Covid, mais on ne va pas se gâcher le plaisir. Une experte en psychologie positive viendra nous donner de bons conseils pour reprendre des forces. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
La décrue est lente dans les départements du sud-ouest qui ont été durement inondés et il va repleuvoir.
Oui, on a déjà quelques pluies actuellement entre la Charente-Maritime, la Gironde et en allant jusqu'à l'Alsace. Alors pour l'instant, ce sont des pluies pas trop soutenues mais qui pourraient s'intensifier sur les deux départements des Charentes cet après-midi, Charente-Maritime et Charente. Malheureusement, là où on est déjà avec des niveaux d'eau assez élevés, 11 départements d'ailleurs restent en vigilance crue cet après-midi entre les Charentes, les Landes, mais aussi dans la Somme, dans l'Oise, dans l'Aisne ainsi qu'en Saône-et-Loire et dans le Maine-et-Loire. De part et d'autre, on peut espérer quelques petites éclaircies. Pour autant, ce sont quand même les nuages qui domineront la plupart du temps cet après-midi, avec des températures très très douces. 18 degrés attendus à Marseille aujourd'hui, 14 à Clermont-Ferrand, 13 à Bordeaux, 11 à Paris, 10 à Rouen.
La question du jour sur RTL.fr en ce début des vacances d'hiver. Allez-vous partir? Il y a 80% de non, 13% de oui, sont peu nombreux. Les vacanciers, bonjour Pascal Praud.
Bonjour, et ça n'étonnera évidemment personne. La situation ne justifie pas à ce jour un nouveau confinement. Vous pourrez réagir à ce qu'a dit Jean Castex, qui a varié, le variant Castex. La France est-elle une démocratie défaillante? C'est une question que nous pourrons poser. Nous avons été relégués dans cette catégorie dans une étude du groupe britannique The Economist, en cause des restrictions provoquées par la lutte contre la pandémie. Autre sujet, Brigitte Macron pointe du doigt la mauvaise influence présumée des jeux vidéo sur le bien-être des adolescents et même des personnes, des adultes. Fortnite, par exemple, c'est terrible, dit-elle. Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent? Et Fortnite, c'est 40 ans de moyenne d'âge, donc ce ne sont pas que des ados. Les vacances scolaires, évidemment, pour en parler. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
La deuxième ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe est à bout de souffle. Celle du RERB, son million de passagers quotidiens. Une rupture de caténaire à la gare du Nord à Paris, tôt ce matin, a bloqué le trafic jusqu'à 15h. Nouvelle journée de galère, Arnaud Touche, pour des usagers partagés entre eux, l'abattement et la colère.
Oui, les passagers vont dans tous les sens, dans les souterrains de la gare du Nord. Laurent attend son collègue et devait se rendre en Seine-Saint-Denis pour un rendez-vous.
C'est pénible et on n'a pas plus d'informations qu'il est arrêté. Et ça, c'est quand même extrêmement frustrant. Enfin, il y a quelque chose qui me dépasse. Soit on fait avec, hein, de toute façon, mais on est condamné, on n'a pas d'autre solution. Donc voilà.
Et les agents tentent de donner des consignes au mégaphone, mais on ne comprend pas grand-chose. La ligne D est également touchée. Odile en fait les frais.
Ben, là, je suis bloquée à cause de la ligne D. Toujours la ligne D.
Vous êtes en retard déjà ou pas?
Ah ben oui, je suis en retard. Ils ont toujours des problèmes.
Et pour le RERB, cette fois, un TGV spécial vient d'être mis en place pour faire la navette entre la gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle.
Et les usagers, Arnaud, comptent sur les nouvelles rames, évidemment, qui doivent arriver en principe en 2025. Mais rien n'est moins sûr puisque Alstom fait de la résistance.
Oui, car au départ, en fait, c'est l'entreprise Bombardier qui avait été choisie pour renouveler les RER d'ici 2025. Mais entre-temps, Bombardier a donc été racheté par Alstom, qui a décidé hier soir de ne pas maintenir ce contrat, jugé trop risqué pour l'entreprise. Cette décision, vous vous en doutez, a provoqué la colère de la RATP et de la SNCF qui venaient de passer commande. En jeu tout de même le renouvellement de plus de 140 rames de RER d'ici 2025, qui ne seront probablement pas livrées dans les temps.
Patience et longueur de temps. Arnaud Touche en direct de la gare du Nord à Paris. Le confinement ne se justifie pas pour l'instant, a dit Jean Castex hier soir. Statu quo, donc, les premiers départs en vacances pourront avoir lieu ce week-end. Le Premier ministre nous demande d'éviter tout relâchement. Et pour mieux dépister le Covid, des tests salivaires seront bientôt déployés dans tout le pays, en particulier dans les établissements scolaires. Faisons le point avec vous sur ces nouveaux tests. Sophie Orange, quels sont les avantages?
Alors déjà, ça fait moins mal que les couvillons dans le nez. C'est son principal avantage. Fini le grand coton-tige qu'il faut enfoncer assez loin. Bon, c'est pas insupportable, mais c'est pas très agréable, ça pique un peu. Les tests salivaires sont donc indiqués pour les personnes pour qui le prélèvement dans le nez est impossible, personnes démentes par exemple, très âgées, mais ce sera pas facile non plus de prélever chez elles de la salive.
Bon, et quels sont les inconvénients?
Bah justement, celui-là, pas facile de récupérer de la salive. Soit il faut aller la chercher directement dans la bouche, soit il faut en déposer une bonne quantité dans un petit récipient adapté, mais sans cracher, sinon ça vient des poumons. Bref, c'est plus long qu'un prélèvement dans le nez, c'est plus risqué aussi pour celui qui prélève, mais ça fait moins peur, donc potentiellement cela peut inciter plus de personnes à se faire dépister. Sur le fond, après des premiers doutes, la Haute Autorité de Santé considère désormais, après avoir analysé des milliers de tests, que les résultats sont corrects. C'est toujours la technique PCR ensuite, hein, il n'y a que le prélèvement qui change. Il y a des faux négatifs, plus qu'avec les couvillons dans le nez, mais la sensibilité est tout à fait acceptable. La HAS donnera dans quelques jours des précisions sur leur utilisation lors de dépistages de masse dans les écoles notamment.
Explication Sophie Orange. C'est toujours la progression des variants du Covid beaucoup plus contagieux qui inquiète les autorités. Le variant britannique représente 14% des cas positifs. Quant au Sud-Africain, il a fait exploser le nombre de contaminations sur l'île de Mayotte dans l'océan Indien. L'île reconfinée pour au moins 3 semaines à Gatlandais car ce variant est inquiétant.
Oui, et surtout parce qu'on en sait très peu pour l'instant sur ce variant. On sait qu'il est apparu fin octobre en Afrique du Sud. 3 mois plus tard, il représente désormais 90% des cas là-bas. Les scientifiques en déduisent donc qu'il est plus contagieux, comme le variant anglais, explique Daniel Lévy-Brul, épidémiologiste à Santé publique France.
L'augmentation de la transmissibilité du variant sud-africain devrait être du même ordre que celle du variant du Royaume-Uni est raisonnable. On est maintenant à une estimation qui reste autour de 50% d'augmentation de la transmissibilité.
On sait donc qu'il est plus contagieux. Et l'autre élément inquiétant, c'est qu'il pourrait résister au vaccin. Avec le Covid, entre guillemets, classique, quand on a été malade, on garde dans notre corps une immunité qui va de 6 à 8 mois. C'est beaucoup moins avec ce variant sud-africain. Conséquence, les vaccins pourraient être moins efficaces sur cette souche. Aujourd'hui, on compte 120 cas de ce variant en France. Une toute petite poignée en métropole. La très grande majorité dépistée à Mayotte et à La Réunion.
Et on rappelle que les habitants de Mayotte et de La Réunion qui souhaitent venir dans l'Hexagone ne peuvent le faire qu'avec un motif impérieux et ils doivent présenter un test PCR négatif. Les musées vont-ils pouvoir rouvrir? Jean Castex n'a pas donné de date hier, mais il ne l'a pas tout à fait exclu. Le Premier ministre avait d'ailleurs demandé il y a quelques jours à la ville de Strasbourg de lui faire des propositions. Et nous sommes justement avec Anne Missler, l'adjointe aux arts et aux cultures de la ville. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez mis au point un protocole pour qu'on puisse de nouveau avoir accès à la culture. Comment ça se passerait, par exemple, dans les musées?
Alors, dans les musées, on imagine pouvoir accueillir des petits groupes ou des demi-groupes classes avec une distanciation de 6 à 8 mètres carrés, avec un animateur ou une animatrice qui les pilote dans les visites des musées. Et il n'y a pas de, comment dire, dès qu'un groupe a quitté un espace, un autre petit groupe peut suivre derrière, mais avec une application extrêmement stricte du protocole sanitaire.
Oui, donc
voilà,
pas,
pour les musées,
pas,
ou les expositions.
Pas question de se croiser, hein. Et pour les réservations, tout se fait par Internet?
Et tout se fait effectivement par réservation, par Internet ou par téléphone si y a impossibilité d'utiliser Internet, ce qui peut arriver. Parce que là, on parle des petits groupes scolaires, mais c'est ouvert aussi pour les populations en grande fragilité. Et donc là, dans des groupes qui ne peuvent pas dépasser 10 personnes et qui sont bien accompagnés. Et donc là, le protocole est appliqué de façon extrêmement stricte. Les musées sont prêts, mais pas seulement les musées, hein.
Oui, alors justement, j'allais y venir. Vous envisagez aussi la réouverture des cinémas, des salles de théâtre?
Des cinémas, des salles de spectacle, c'est-à-dire tous les lieux de spectacle qui ont bien mis en place des protocoles sanitaires et qui l'ont fait d'ailleurs depuis plusieurs mois maintenant, mais qui l'ont renforcé dans la perspective de pouvoir accueillir de façon successive et de façon très limitée des groupes de personnes.
Mmh. Mais est-ce que ça peut être rentable pour ces lieux de culture de rouvrir pour si peu de visiteurs?
Non, évidemment. On ne va pas
se
cacher derrière le petit doigt. Mmh. Mais ce qui est important, c'est retisser le lien social à la fois entre les spectateurs et les artistes ou les professionnels de la culture. Parce que à force de ne plus être en contact pour ces derniers, c'est au bout d'un moment une perte de sens de ce qu'ils font. Donc c'est extrêmement important qu'ils puissent retrouver des spectateurs, même en nombre très réduit et même en catégorie, on va dire, un peu spécifique, les jeunes, les enfants, les étudiants, hein, qui sont dans un grand isolement pour un certain nombre d'entre eux, et puis aussi des petits groupes de personnes âgées qui sont en bonne forme, mais qui, pour qui c'est important de pouvoir retrouver un peu de lien social dans la vie. Voilà.
En tout cas, vous êtes prêt à Strasbourg et vous avez fait des propositions au Premier ministre. Merci beaucoup, Anne Missler, adjointe aux arts et à la culture. Et le monde de la culture, effectivement, s'impatiente. Le DJ Bob Sinclair a même repris à sa façon, dans un clip, la chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Ça, c'est le DJ Bob Sinclair qui revisite Florent Pagny et Ma liberté de penser devient Ma liberté de danser. Dans un instant, le Covid met à l'arrêt l'usine Renault de Sandouville.
RTL Midi.
À l'arrêt lundi et mardi prochain à cause du Covid. Alors l'usine ne s'est pas transformée en cluster géant. Non, c'est pas un problème de contamination, mais de pénurie. Il manque des composants électroniques pour fabriquer l'utilitaire de Renault, le Trafic. Frédéric Veil.
Oui, l'annonce a été faite aux salariés ce matin à 9h. C'est le directeur du site en personne qui a confirmé la fermeture de l'usine lundi et mardi. Cela veut dire que les 2700 salariés devront rester chez eux. Fabien Glohagen est le représentant FO à Sandouville.
Ce matin, le directeur du site a annoncé que l'activité de Sandouville allait s'arrêter suite à une pénurie mondiale des composants électroniques, les composites donc qui viennent d'Asie, qui transitent par l'Europe de l'Est. Donc l'usine va s'arrêter tout simplement suite à un problème d'approvisionnement lié à cette pénurie.
Alors à Sandouville, cela concerne les airbags et les calculateurs ABS pour le Renault Trafic, d'où cette réflexion du syndicaliste.
À 25% à 30% en plus de composants électroniques, électriques dans nos véhicules. Et la question à se poser, c'est est-ce que c'est la solution de les faire toujours en Asie, puisque à Sandouville, c'est qu'on a un tiers de commande de plus de 60 jours d'avance et on va être obligé de s'arrêter pour ça. C'est vraiment dommage.
L'usine Renault de Sandouville sera donc fermée lundi et mardi, mais également le samedi 13 février, qui devait être une journée d'heures supplémentaires. Et comme le disait un salarié tout à l'heure, on va vivre ces prochaines semaines au jour le jour.
Frédéric Veil, l'eau redescend doucement à Marmande, où la Garonne est montée au plus haut depuis 40 ans, 10,20 m. Les pompiers ont dû effectuer plus de 300 interventions. Philippe de Maria, vous êtes à côté, dans le village de Fourques-sur-Garonne, encore transformé en lac.
Oui, et dans ce quartier pavillonnaire transformé en cité lacustre, le seul moyen de locomotion aujourd'hui, c'est le tracteur taxi avec Daniel au volant. Il est employé municipal et il propose ses services aux sinistrés.
On n'est pas des héros, hein, on est des gens lambda. Hein. On essaie de ravitailler, il y a plein de choses à faire. Hein. Le chantier n'est pas fini encore. Hein. Bon, je vais pas tarder. Venir ou pas ? Venir ou pas ?
Tout l'électroménager, c'est-à-dire lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur. Dans la pièce, on avait réfrigérateur, on avait un bureau, on avait canapé, je sais pas évaluer.
Après, il y a les murs, il y a le placo, il y a tout ça. En fait, en bas, il y avait une pièce en placo. Le placo, c'est foutu.
Hier soir, moi, parce qu'ils nous avaient prévu jusqu'à 18h, et quand à 22h j'ai vu qu'elle passait les piliers du portail, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, elle va monter à l'appartement en haut. Non, franchement, c'est angoissant, ça nous était jamais arrivé. Non, franchement, c'est angoissant.
La décrue sera lente ici et les efforts pour tout nettoyer seront, à n'en pas douter, considérables.
Philippe de Maria, Fourques-sur-Garonne pour RTL et Jean Castex. Le Premier ministre se rendra à Marmande en début d'après-midi. Les amateurs de foot pourront donc suivre le classique OM-PSG dimanche sur Canal+ et en codiffusion avec Téléfoot. Le groupe Canal a finalement trouvé un accord avec la Ligue pour diffuser ensuite tout le championnat jusqu'à la fin de la saison. saison en Ligue 1 et 80% de la Ligue 2. Elle débourse au final 365 millions. La Ligue récupère 650 millions au total avec les autres diffuseurs. Maxime Saada, le patron de Canal+, était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL et pour lui, c'est le juste prix.
Il y avait une chimère, un mirage d'un milliard 150 oui. millions qui n'a jamais existé. Donc de l'argent qui n'existe pas, qui n'a jamais été versé, sur lequel il n'y avait aucune garantie, ou très peu, très faible, la preuve, la défaillance de Mediapro. La réalité, fin 2016, les deux derniers cycles, fin 2016, on était à peu près autour de 600 millions d'euros de recettes pour la Ligue 1. Fin 2020, le cycle précédent, c'était 730. Aujourd'hui, on va arriver à un total pour la Ligue de l'ordre de 650, donc on se situe ni plus ni moins qu'entre fin 2016 et fin 2020, les deux précédents cycles. Je rappelle que Mediapro ne payait pas pour ces matchs, les diffusait sans payer. Canal, aujourd'hui, pour 20% des droits, a payé deux fois plus que Mediapro sur cette saison.
La saison est sauvée, mais pour les clubs de Ligue 1, il y a un grand manque à gagner, c'est tout simplement moitié moins. Et l'inquiétude est toujours vive, si l'on en croit Olivier Delcourt, président du club de Dijon.
C'est très bien qu'il y ait eu un accord de trouver pour sauver ce qu'on peut encore sauver. Mais bon, 50% de droits en moins, quand on sait que tous les clubs ont fait leur budget avec ce qui était prévisible et prévu, ça va être très compliqué. Des clubs comme Dijon, on investit régulièrement dans les infrastructures, dans notre nouveau centre d'entraînement et tout. Donc bon, ça remet en cause beaucoup de choses. Pour nous, les droits télé, par exemple, pour un club comme Dijon, c'était 30 millions d'euros. Vous retrouvez avec 15, on va quand même toucher la moitié. Donc c'est déjà mieux que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais après, il y a quand même tout ce qui a été fait au niveau des PGE, les prêts qu'il va falloir de toute façon rembourser. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un contrat sur 5 mois. C'est déjà mieux que rien, c'est clair. Et puis après, voir de quoi l'avenir sera fait, on verra bien. Mais en tout cas, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Voilà, c'est juste une bouffée d'oxygène, nous dit Olivier Delcourt, président de Dijon, interrogé par Nicolas Georgerot. En Russie, l'opposant Alexei Navalny doit être jugé aujourd'hui pour diffamation, quelques jours après une précédente condamnation. Les relations entre la Russie et l'Europe sont au plus bas depuis l'empoisonnement de Navalny. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite à Moscou, parle même d'une situation malsaine qui ne sert personne. La Russie, elle, considère que les critiques venues de l'Europe sont une ingérence. Allez, on fait une petite pause et dans un instant, on part en vacances.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Les vacances d'hiver, normalement, c'est tout chousse vers le ski. Cette année, faute de remontée mécanique, on se retrouve en mode ski de fond ou bien on préfère la mer. On peut partir, mais peu d'hôtels sont ouverts, il n'y a pas de restaurant et le couvre-feu s'impose à 18h. Dans le Morbihan, les réservations sont plutôt modestes, Nicolas Bobby.
Présidente des Gîtes de France du Morbihan, Marie-Thérèse Mao possède 3 hébergements à Locoal-Mindon, dans la campagne à quelques kilomètres des plages. Pour l'heure, les réservations sont timides.
J'ai une seule réservation du 20 au 27 février dans un seul gîte. Tout le monde attendait de savoir s'il y avait confinement ou pas confinement. Aussi, le couvre-feu à 18h fait reculer parce que les gens aiment bien aussi, quand ils sont en vacances, traîner un peu. Maintenant, on peut avoir un rattrapage aussi de dernière minute.
Depuis ce matin, le standard commence à chauffer. Yves Géano, directeur des gîtes dans ce département touristique.
Oui, là, ça réserve, on le voit. Là, ça commence à réserver pour février, mais doucement. On a beaucoup de gens de la région parisienne. Les gens peuvent cuisiner et peuvent vivre comme s'ils étaient chez eux. Mais par contre, ils sont en vacances.
Un protocole très strict de désinfection est effectué par chaque propriétaire, de quoi rassurer les vacanciers.
Reportage Nicolas Bobby. Les restrictions sont tout de même dissuasives. D'habitude, 3 millions de personnes partent en vacances à cette période de l'année, mais d'après les professionnels du tourisme, elles ne seront que 100 000. Alors, qu'on parte ou pas, gardons le moral. Bonjour Cécile Neuville.
Bonjour.
Vous êtes psychologue experte en psychologie positive. On vous a pas choisi par hasard.
Voilà.
On va essayer de regarder le verre d'eau à moitié plein avec vous. Si on décide de rester à la maison, par exemple, oui. Comment réinventer notre quotidien ?
Déjà, j'ai envie de dire de se mettre dans un état d'esprit que c'est un quotidien de vacances. Donc déjà de se dire en famille, là, si on parle vraiment en famille. Peut-être se faire un petit moment au début des vacances pour se poser, se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qui a envie d'avoir quel rythme, voilà, poser la question à tout le monde et de se dire on n'est pas obligé de manger aux mêmes heures que d'habitude, de faire les mêmes activités que d'habitude et réfléchir ensemble à comment on peut déjà en faire des vacances qui plaisent à tout le monde. Donc je pense que déjà ce premier point est essentiel, prendre le temps de réfléchir ensemble. Ça, ce serait la première
étape. Et quel type d'activité on peut faire alors?
Alors, au final, en fonction évidemment des âges de chacun, du nombre de personnes, hein, il faut s'adapter. Si on est avec des petits, mais même avec des plus grands, d'essayer toujours de prévoir au moins une sortie par jour du lieu d'habitation pour pouvoir avoir aussi l'impression de s'évader, d'aller dans des endroits différents de d'habitude. Ça peut être un parc, mais pas le même parc que d'habitude. Ça peut être une sortie dans la nature, mais pas forcément au même endroit que d'habitude, pour avoir vraiment l'impression aussi de vivre des nouvelles expériences. Donc sortir au moins une fois par jour, même si ce n'est qu'une demi-heure, mais avoir un petit peu cette sensation de changer et de vivre quelque chose de nouveau chaque jour. Ça serait une première activité qui est assez accessible à tout le monde et où que l'on vive. En fait, il y a toujours au moins un endroit où on peut se rendre malgré les conditions et avant 18h, évidemment.
Oui, mais alors justement, pour ceux qui partent, hein, les restaurants sont fermés.
Oui.
Il y a couvre-feu à 18h, ça complique quand même un petit peu les choses. Comment faire pour contourner les obstacles? Parce qu'on se sent tellement... Il y a trop de restrictions, en fait.
C'est de redécouvrir un petit peu les environnements avec un regard un peu neuf et nouveau. Ça peut être des environnements naturels, ça peut être aussi aller découvrir les villes, les petites villes des alentours, mais se promener et avoir vraiment un regard de un peu d'enfant et peut-être se poser des questions sur la culture locale, enfin essayer d'apporter de la nouveauté, encore une fois, comme de l'expérience, soit en partant en vacances et en faisant la découverte du lieu dans lequel on se trouve sans forcément avoir une activité, ou alors carrément créer des activités dans des lieux d'extérieur si le temps le permet, parce que c'est vrai que ça va aussi dépendre évidemment du temps. Évidemment, s'il pleut, on peut pas s'amuser autant.
Au fond, cette pandémie, elle nous oblige à vivre au présent. On peut pas se projeter. C'est ça qui nous déprime. Comment l'accepter, ce présent?
Alors, on peut quand même un peu se projeter, mais avec une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que moi, je sais qu'une méthode qui marche très bien sur une semaine, par exemple, de vacances, le dimanche, se projeter sur la semaine, se dire, bon, ce serait pas mal que lundi, on essaye d'aller voir ça, mardi, on peut aller là, mercredi là. Et puis, par contre, tous les matins, à quelle heure vous voulez qu'on se réveille? À quelle heure vous voulez qu'on fasse le petit-déj? Est-ce que, il y en a qui veulent faire du sport, peut-être, s'il y a un jardin ou un petit parc à côté, ou même à la maison? Se mettre des petits rituels réguliers. Donc ça, on peut se projeter avec un rituel. Moi, je sais que nous, dans la famille, on aimait bien, là, pendant le premier confinement, toutes les fins d'après-midi, on se retrouvait, on faisait des petites séances de sport dans la télé, en famille. Ça nous coupait tous et c'était chouette et on savait tous qu'à cette heure-là, on se retrouvait. Beaucoup de familles ont des petits rituels comme ça, en famille, à des heures précises, ce qui laisse quand même un petit peu de régularité, mais avec la liberté sur d'autres temps de profiter quand même des vacances comme chacun le souhaite.
Voilà, on se fixe des rituels, des objectifs, on essaie d'être ensemble et d'être bien ensemble. Merci Cécile Neuville, je rappelle que vous êtes l'auteur de Mon petit cahier de pensées positives aux éditions Solar. Merci.
Avec plaisir.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons aujourd'hui dans l'Ain, en face de Genève, à Ferney-Voltaire, là où le grand philosophe des Lumières a passé 20 ans de sa vie. Frédéric Perruche, une famille, vient d'offrir à la commune les œuvres complètes de Voltaire d'époque.
Et ce n'est pas rien, ce sont 30 tomes grand format, ce qui est très rare, que le maire de Ferney-Voltaire, Daniel Raffo, a découvert non sans émotion à Genève, dans la bibliothèque de la famille Martin, qui possédait ses ouvrages imprimés du vivant du philosophe dans les années 1760-70. Une pure merveille.
Des dons, ça peut arriver. Mais là, quand j'ai appris ce que c'était, alors là oui, je suis tombé de ma chaise. Oui. C'est un merveilleux don.
C'est peu dire, car ces 30 ouvrages qui contiennent les chefs-d'œuvre de Voltaire comme Candide, Zadig, l'Ingénu ou la Henriade ont traversé 2 siècles et demi sans dégâts. Ils sont en parfait état.
On a affaire à des éditions de Cramer, contemporain de Voltaire, un éditeur genevois, et les livres, éditions de luxe, datés, en très très belle qualité. Bien entendu, ce sont des livres illustrés, ce qui fait aussi la rareté. Très belle reliure, des presses avec du cuir, avec un lettrage doré, etc. Une impression aussi de très belle qualité.
La collection est précieusement conservée dans un endroit tenu secret pour éviter tout vol, mais également l'humidité et la lumière. Le maire de Ferney-Voltaire espère, quand la situation sanitaire le permettra, pouvoir exposer ses œuvres complètes et rendre hommage aux généreux donateurs.
Merci beaucoup Frédéric Perruche. Et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans 5 minutes. Pascal.
C'était intéressant d'écouter la psy pour savoir comment on devait passer nos vacances.
Même si, a priori, le plus important, c'est quand même d'être avec des gens qu'on aime. On est d'accord quand même. Mais bon, c'est vrai que ça peut ne pas être facile, toujours et tout le temps. La situation ne justifie pas à ce jour un nouveau confinement. Vous pourrez réagir sur les propos de Jean Castex hier. Également sur les jeux vidéo. Fortnite, c'est terrible. Et Fortnite, la moyenne d'âge, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 40 ans. Et c'est Brigitte Macron qui pointe du doigt la mauvaise influence présumée des jeux vidéo. On pourra également parler, bien sûr, de ces vacances scolaires, comment vous allez les vivre. On pourra parler de Canal+, si vous souhaitez. Est-ce que vous êtes content que le football revienne sur la chaîne cryptée? Et puis, dernier sujet, puisque c'est vendredi, on va faire le jeu des imitateurs. On va demander à nos auditeurs s'ils savent imiter quelqu'un ou quelqu'une.
C'est nouveau, ça.
Ben oui, c'est la journée des imitateurs. C'est la journée mondiale des imitateurs. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez imiter quelqu'un?
Non, je suis nulle, moi.
Eh ben, écoutez.
Désolé.
Alors, on va voir.
Ah oui, bah, en revanche, vous?
Bah oui, mais généralement, on imite l'imitateur.
Et alors, vous imitez qui?
Je sais pas. Écoutez, voilà.
On l'a reconnu. C'était court, mais on l'a reconnu. C'est déjà ça.
C'était bien.
Valérie Quintin, on parle de météo. Encore 11 départements en vigilance crue, inondation.
Oui, des Charentes, Hollande, dans le Maine-et-Loire, la Somme, l'Oise, l'Aisne, ainsi que le département de la Saône-et-Loire. Alors, la décrue est amorcée, mais elle est vraiment très, très lente. Et dans le même temps, de nouvelles pluies sont arrivées. Des pluies qui s'étendent à nouveau de la Charente-Maritime jusqu'à l'Alsace aujourd'hui. Des pluies qui seront peut-être même un petit peu fortes cet après-midi et ce soir sur les deux départements charentais. Donc c'est franchement pas une bonne nouvelle, ça, non. Pour le coup, de part et d'autre, on peut espérer quelques éclaircies, les plus belles près de la Manche et puis de l'autre côté du pays vers la Méditerranée. Mais attention, il y a beaucoup de vent en Languedoc et en Roussillon notamment. Les températures cet après-midi, 10 degrés à Alençon, 11 à Paris et Lille, 13 à Besançon, 16 pour Agen et pour Nice.
Bon, et le programme pour le week-end?
Comment dire, demain, je sais plus trop comment
quand
vous
ça
dire.
Ça commence comme ça.
Ça commence mal. Bon, on va avoir quand même pas mal de pluie encore pour la journée de demain, ce qui reste franchement une mauvaise nouvelle, assurément, sauf en Bretagne et dans le Cotentin. C'est là que le soleil sera le plus généreux pour toute la journée de samedi. Près de la Méditerranée, on pourra avoir aussi de belles périodes de soleil, de même que dans les Alpes, en dehors de la Corse, qui elle va avoir des pluies. Pour les autres, un ciel très chargé, des pluies assez fréquentes et même soutenues demain après-midi et demain soir vers les Cévennes ou encore vers le département, à nouveau vers le Limousin ou vers la Charente. Il faut vraiment être très très prudent. Les températures demain matin seront comprises entre 2 et 12 degrés de Brest à Toulon, mais demain après-midi, on va avoir une fourchette de 8 à 23 degrés. 23 degrés, ce sera pour Ajaccio, cherchez pas. Les 8 degrés seront pour Cherbourg, on aura 11 degrés à Paris, à Metz et à Cognac. Et dimanche, hop là, on change de régime, puisque je vais vous parler de neige en pleine.
Les températures, là, c'est le froid qui revient. Là.
Voilà, les températures dégringolent en l'espace de 24 heures. On pourrait avoir 1 à 5 cm de neige dans le nord, dans la Somme ou encore dans le Pas-de-Calais, un ciel couvert partout, du vent et du soleil près de la Méditerranée.
Ah, merci.
Je vous en prie,
c'est fait le maximum. Programme. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La France était une démocratie défaillante. Nous avons été relégués dans cette catégorie dans une étude du groupe britannique The Economic. En cause, les restrictions provoquées par la lutte contre la pandémie. Eh bien, François veut intervenir sur ce sujet. Bonjour François.
Bonjour Pascal, et je n'ai vraiment pas l'impression que la démocratie a reculé quand même.
Eh bien, vous allez nous en parler dans une seconde. Christelle Robière, les titres.
L'Organisation mondiale de la santé appelle à vacciner plus vite en Europe face à la montée des variants anglais, sud-africains, brésiliens. En France, l'île de Mayotte est reconfinée pour au moins 3 semaines, mais dans l'Hexagone, pas de restrictions de circulation alors que débutent les vacances scolaires. La pandémie a creusé le déficit commercial de la France à 65 milliards d'euros en 2020, plombé par l'aéronautique ou encore par les importations de masques. La fronde des musées s'amplifie face à une fermeture qu'ils estiment ne pas mériter. Des pétitions et des propositions concrètes ont été déposées sur le bureau de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, pour une réouverture rapide, au moins partielle. Et puis à l'instant, on apprend que le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez est finalement annulé. Il était prévu fin mars. Jean Castex sera à Marmande en tout début d'après-midi. La Garonne y est montée jusqu'à 10,20 m. C'est du jamais vu depuis 40 ans. La décrue est lente dans le sud-ouest.
Les auditeurs ont la parole